RFI, grand reportage. Charlotte Hydrac. Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Bonjour, on part à Pékin, aujourd'hui en Chine. La ville fait peau neuve et ce rêve capitale du monde, digne de New York ou de Singapour. Alors depuis des mois, les bulldozers sont partout et rasent des quartiers entiers. Les agents de la municipalité ne prennent pas de gants pour déloger les occupants. Et les premières victimes de ce grand nettoyage, ce sont les Chinois qu'on appelle les migrants de l'intérieur, des paysans venus des campagnes pour chercher une vie meilleure et qui ces 30 dernières années ont permis aussi l'essor économique de la Chine. Mais pour le pouvoir, la ville du futur doit être une ville des élites et sa politique n'épargne pas les élèves de nombreuses écoles de migrants menacées, elles aussi, de démolition. Grand reportage, signé Heike Schmidt.
Cours de mandarin à l'école Huangzhuang dans la banlieue sud-ouest de Pékin. Une trentaine d'élèves suivent sagement les instructions du professeur. Tous dans cette classe sont des enfants de migrants, ces travailleurs pauvres venus des campagnes chinoises pour réaliser leurs rêves, une vie meilleure et une bonne éducation pour leurs enfants.
J'aime bien venir dans cette école pékinoise. Je suis originaire du Nord-Ouest. Mes parents travaillent dans le commerce du marbre. Je vis ici depuis presque 10 ans.
Guo Nan, 12 ans et bon élève, se fait des soucis.
Notre enseignant nous a dit que Pékin chasse les migrants et que cette école sera démolie. J'essaierai d'aller dans une autre école, mais je ne crois pas qu'ils me prendront. Peut-être que je dois rentrer dans mon village que je ne connais même pas. Et l'éducation est meilleure ici à Pékin. Mais nous habitons dans un bâtiment annexe de l'école. Si elle est démolie, notre logement sera rasé avec. Mon papa a un magasin plus loin à Mentougou. Nous devrons alors aller dormir là-bas.
Comme Guo Nan, ils sont 1500 à être scolarisés dans cette école réservée aux enfants venus des campagnes. Mais personne ne sait combien de temps cet établissement existera encore.
Nous ne voulons pas qu'il soit détruit. Quand les parents et les élèves ont appris que l'école sera démolie, ils se sont tombés dans les bras en pleurant.
Ce professeur accepte de nous parler, mais à condition que son nom ne soit pas cité.
Cette école dispose d'une licence officielle. Elle existe depuis 20 ans. En décembre, nous avons encore reçu le prix d'excellence au service du peuple et nous avons obtenu un prix de l'Assemblée populaire. Mais l'année dernière, le ministère de l'Éducation a décidé que notre école était une construction illégale. Selon le plan gouvernemental, d'ici jusqu'à la voie ferrée, là-bas, le terrain doit devenir un espace vert.
Un espace vert en lieu et en place de la cour de récréation et du terrain de sport où les enfants jouent à cache-cache au pied d'un drapeau chinois qui flotte sous un ciel bleu immaculé.
Je voudrais que le gouvernement investisse davantage dans les écoles de migrants pour que ses élèves puissent étudier sous le même ciel bleu que les Pékinois. Il faut leur donner une éducation pour qu'ils aient des perspectives, un avenir plein d'espoir. Mais je suis inquiet. Si les démolitions continuent, ils n'auront pas d'autre choix que de rentrer dans leur province d'origine. Vivre sans leurs parents, ça sera pourtant un terrible bouleversement psychologique et mental.
La perspective de devoir quitter Pékin n'enchante guère Liu Keixin, 8 ans.
Je suis née à Pékin. Je veux rester ici. Je ne connais personne là où mes parents sont nés. Comme l'école doit être détruite, ma maman s'entête à vouloir me renvoyer là-bas. Mes parents disent qu'ils n'ont plus de perspective ici. Les loyers flambent, les frais scolaires sont chers. Mais je reviendrai à Pékin. La vie est trop nulle à la campagne.
Qu'est-ce que tu veux devenir après l'école ?
Je deviendrai danseuse à Pékin. Bien sûr, je peux danser chez moi à la campagne, mais je gagnerai très peu. J'aimerais gagner beaucoup d'argent pour aider ma maman.
Pareil pour Tiaoke. Le garçon, âgé de 14 ans, sortira du collège dans un an. Il a déjà un projet précis en tête.
Je voudrais m'inscrire dans une école technique pour devenir cuisinier. Mes parents vendent des fruits et des légumes. Ils ne veulent pas que je continue leur travail. C'est trop pénible. Si cette école ferme, je n'ai pas d'autre choix que de rentrer. C'est impossible d'intégrer l'école publique à Pékin pour nous les migrants.
Comment expliquer aux élèves que leur rêve risque de voler en éclats ? C'est un casse-tête pour cet enseignant qui ne se contente pas d'apprendre les mathématiques aux enfants.
Je dis à mes élèves qu'il faut bien étudier. Je leur inculque que le savoir peut changer leur destin. Ils pourront rendre service à notre pays. Pourquoi nos élèves sont-ils si injustement traités? Pourquoi ne peuvent-ils pas aller dans les écoles publiques? La Chine est un pays socialiste, un état de droit. Nos enfants n'ont pourtant aucun soutien de l'État.
Tous ici s'attendent à ce que les bulldozers se positionnent une nouvelle fois devant les grilles de l'établissement, comme nous l'affirme Lidan, la jeune femme au visage poupin, une écharpe rose ornée de petits cœurs noués autour du cou, et une des maîtresses de l'école maternelle qui accueille 400 enfants juste à côté du collège.
Les élèves pékinois et les élèves de migrants doivent être égaux devant l'éducation. Pourquoi le gouvernement expulse-t-il nos migrants avec tant de violence? Où pouvons-nous envoyer ces enfants? Personne ne les garde chez eux, dans leur province d'origine. Ils seront seuls et nous, on sera au chômage.
Saisie par le froid glacial, Lidan nous propose un thé chaud dans le bureau du principal.
Les difficultés ont commencé avant l'hiver, lorsque les autorités ont coupé l'eau et l'électricité. Des hommes ont détruit les tuyaux de chauffage, ils ont voulu tout casser, alors que les enfants étaient en classe. Les parents s'y sont opposés et ils sont repartis. Puis en septembre, ils ont forcé la porte d'entrée.
Couper l'eau et le chauffage, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Ce collège et l'école maternelle sont encore debout, mais tout autour de Pékin, les pelleteuses ont déjà transformé des quartiers entiers en champs de ruines. Déjà en juillet 2017, le journal officiel Global Times titrait « Pékin soumis à un lifting. La ville se débarrasse de ses commerces bas de gamme et de ses constructions illégales. Objectif, faire table rase sur 40 millions de mètres carrés afin de désengorger, moderniser et rendre plus verte la capitale. Bars et restaurants sont murés, des échoppes désossées, voire détruites. » Et puis un incendie met un coup d'accélérateur à ce vaste nettoyage urbain. Le 18 novembre, 19 personnes meurent dans les flammes d'un bâtiment insalubre à Daxing, un quartier à la périphérie sud de la capitale. Au nom de la sécurité, les fonctionnaires font du zèle, comme ce cadre municipal dans une vidéo qui a filtré dans les réseaux sociaux.
Si vous pouvez démolir un bâtiment aujourd'hui, n'attendez pas demain. Ceux qui s'opposent commettent le crime de mise en danger de la sécurité publique. N'ayez pas peur, soyons durs, rapides et déterminés.
Un acharnement qui vise la population chinoise la plus vulnérable, les travailleurs migrants ou non-mingong, les petites mains du miracle chinois. Chloé Froissart, directrice du Centre franco-chinois en sciences sociales de l'Université Tsinghua à Pékin.
Cet incendie qui a eu lieu en novembre est en quelque sorte une aubaine pour le gouvernement de Pékin dans la mesure où il permet d'atteindre ses objectifs de réduction de la population plus vite et de récupérer des terrains qu'il pourra vendre à prix d'or et qui accueillera des tours abritant la classe moyenne supérieure dont Pékin aimerait se voir uniquement peuplée. Voilà, les grandes villes devraient être uniquement peuplées d'une élite fortunée, extrêmement qualifiée dans les nouvelles technologies, des ingénieurs, symbolisant le pouvoir économique et d'innovation de ces grandes villes.
À Pékin, ils sont 8 millions à avoir le statut de paysan, plus d'un tiers de la population citadine. Tout en étant citoyens de la République populaire de Chine, ils n'ont qu'un accès limité aux services publics.
Il y a un système d'enregistrement de la population en Chine qui date de l'époque maoïste et qui attache les droits des individus au lieu de leur naissance. Aujourd'hui, il a été assoupli. Les gens peuvent migrer, mais les personnes d'origine rurale n'ont toujours pas les mêmes droits que les urbains au sein des villes. Une des raisons principales, c'est que les services publics, l'éducation, etc., est financée sur une base locale, c'est-à-dire que ce sont les gouvernements municipaux qui, sans même l'aide de l'État central et sans aucune forme de redistribution, doivent compter sur leur propre budget pour financer ce type de services publics à l'égard de la population. Donc, leur réflexe principal, c'est de fournir ces services uniquement pour les personnes qui sont enregistrées à Pékin, qui ont le roux de Pékin.
En 2001, Pékin comptait encore 13 millions d'habitants. Aujourd'hui, ils sont près de 22 millions. Il n'y a pas assez d'écoles ni d'hôpitaux et la pollution est telle que la ville a décidé de limiter sa population à 23 millions d'ici 2020. Refouler les migrants semble donc une solution toute trouvée.
Les migrants sont régulièrement chassés des grandes villes et en particulier de Pékin. C'est une manière pour la municipalité de réguler sa croissance et ce qui montre aussi l'image que se fait le régime de ce type de travailleurs. C'est la variable d'ajustement d'un système qui est purement capitaliste. Le problème là, ça a été sur la forme, surtout le discours extrêmement méprisant à l'égard de ces travailleurs qui a accompagné ces évictions, puisqu'il a été dit de manière tout à fait décomplexée qu'il s'agissait de débarrasser Pékin de sa population de basse qualité.
Pékin chasse son petit peuple, titre la presse internationale. Les images des vitres brisées et des portes enfoncées sont rapidement effacées par la censure. Mais Chu Hailong, ouvrier d'une usine de couture, n'a pas oublié la brutalité des forces de l'ordre.
Au lendemain de l'incendie, nous avons reçu l'ordre d'évacuer. On n'avait que 3 jours pour partir. À 10h du matin, les pelleteuses ont commencé à démolir le premier bâtiment à l'entrée du village. Puis ils ont cassé les magasins à coups de masse. Les gens fuyaient, ils n'avaient même pas le temps de ramasser leurs affaires.
Fait rare, l'éviction des plus pauvres déclenche un tollé sur les réseaux sociaux et une centaine d'intellectuels, d'artistes et d'avocats critiquent une grave violation des droits de l'homme. Certains proposent de l'aide, comme ce jeune protestant.
J'éprouve de la compassion pour eux. Lorsque j'ai vu qu'ils avaient perdu leur logement, je me suis dit que je devais leur venir en aide.
Ce bénévole pékinois préfère garder l'anonymat car il est membre d'une église à domicile, c'est-à-dire non autorisée.
Voici ce qu'il y a écrit sur l'affiche que j'ai distribuée. Si vous avez besoin de nous pouvons vous aider à déménager gratuitement. Nous sommes des protestants et des citoyens qui ont le sens de leurs responsabilités. En ce moment difficile, nous voulons être à vos côtés. Cette affiche leur a inspiré confiance.
Cette campagne de solidarité a du succès, mais la paroisse qui l'organise rencontre rapidement des difficultés.
La deuxième semaine, nous étions très occupés. Notre travail s'était très bien déroulé. Mais quand nous avons publié une annonce sur Internet, elle s'est énormément répandue et le gouvernement nous a convoqués pour nous questionner sur le but et le nom de notre organisation. Sur l'affiche, nous écrivions que nous sommes des protestants et que nous offrons notre aide au nom de la religion. Alors qu'en Chine, les croyants n'ont pas le droit de mener publiquement des œuvres charitables. Ils nous ont donc interdit de propager notre offre de secours.
Le pasteur de la paroisse est interrogé par la police, le bail des bureaux loués par l'église est révoqué. Mais pendant ce temps, le jeune croyant continue son œuvre discrètement.
Moi, je suis né à Pékin. Je trouve que ce n'est pas juste que je bénéficie d'avantages que les migrants n'ont pas. Si nous ne donnons pas un coup de main à ceux qui subissent des injustices, eh bien le prochain tour, ce sera à moi. Cette phrase a énormément circulé sur Internet. Aujourd'hui, on expulse les migrants. Un jour, ça sera sans doute à moi d'être chassé, sous un autre prétexte. J'espère que ce jour-là, les autres m'aideront.
L'ex-avocate Ni Yulan, elle, a payé le prix fort pour avoir défendu les droits des expulsés et sa propre maison. C'était avant les Jeux Olympiques de 2008. Suite aux tortures subies en prison, elle ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant.
Les démolitions à l'époque étaient extrêmement violentes, voire cruelles. On appelait ça la destruction sanglante. Dès que Pékin s'est qualifié pour les Jeux, ils ont commencé à détruire les vieux quartiers. J'avais aidé un propriétaire à défendre son droit en filmant la démolition sa maison, mais j'ai été arrêtée et j'ai été torturée en détention.
Aujourd'hui, cette militante des droits de l'homme voudrait défendre ceux qui sont évincés de force, mais Ni Yulan a été radiée du barreau et puis les policiers sont constamment postés devant sa porte.
Cette nouvelle campagne de destruction est brutale, elle aussi. Les gens n'ont même pas eu assez de temps pour sauver leurs affaires. Tout a été cassé. C'est inhumain. J'ai voulu me rendre dans le village où a eu lieu l'incendie, mais les policiers qui me surveillent m'ont empêché de sortir de chez moi.
Malgré les intimidations, les parents d'élèves de Huang Zhuang ne sont pas prêts à baisser les bras, même s'ils semblent déboussolés, comme ces deux mamans, Mai Fai Fai et She Jinche, qui viennent chercher leurs filles à la sortie d'école.
Il y a quelques jours, les enseignants nous ont donné un questionnaire pour savoir ce que nous comptons faire pour sauver cette école. Nous avons déjà signé une lettre ouverte. Les parents s'opposent à la démolition. Si l'école ferme, nous serons obligés de renvoyer les enfants à la campagne. Mais nous avons un emploi ici à Pékin. Moi, je n'ai personne pour garder mes enfants dans ma province natale. C'est un grand problème.
Si l'école ferme, quelle est votre option? Est-ce que vous allez renvoyer les enfants à la campagne?
Je suis en train de chercher une école, mais si mes filles doivent rentrer, nous partons tous ensemble. Je ne veux pas qu'elles grandissent seules. Leurs grands-parents peuvent leur faire à manger, mais ils sont illettrés et incapables de surveiller leurs devoirs. S'ils démolissent cette école, je serai vraiment triste, mais je ne peux rien y faire.
Perdu dans son vieux manteau militaire molletonné trop large, Wei Chuandong attend sa fille Tiao Tiao, âgée de 8 ans, devant les grilles de l'école, inquiet lui aussi.
J'ai entendu en effet qu'elle sera détruite. Je continue à en chercher une autre, mais beaucoup d'écoles ferment.
D'un geste tendre, il pose sa fille dans sa polaire rouge crasseuse sur son triporteur rouillé, rempli à ras-bord de bidons usés. Wei Chuandong gagnait sa vie dans la récupération de déchets. Sa femme fait le ménage dans un restaurant. Ensemble, ils gagnaient 650 euros par mois. Avec cette somme, ils doivent aussi payer les 130 euros de frais de scolarité pour leur fille, qui n'a pas les papiers nécessaires pour fréquenter une école publique gratuite. Nous raccompagnons le père et sa fille chez eux à Yamenkou, un quartier déjà terrassé aux trois quarts par les bulldozers. Le bâtiment délabré qu'ils habitent est le dernier encore debout. Tout autour, il ne reste qu'un amas de gravats, de ferrailles et quelques casseroles et jeux d'enfants laissés par les habitants déjà partis.
Vous entendez les pelleteuses à côté? D'abord, c'était la coupure d'eau. Et là, les bulldozers arrivent. Je ne trouve nulle part où habiter. On a déjà déménagé 4 fois ces derniers mois. Ils ne veulent plus de nous. La démolition est partout. Nous avons habité non loin d'ici, mais la maison a été rasée. Venez voir ma chambre. Mais c'est en désordre. Je suis en train de déménager.
Pourquoi est-ce que vous voulez rester à Pékin?
À la campagne, j'ai très peu de champs, alors que nous devons nourrir nos parents. À Pékin, je gagne plus, mais les loyers, les frais d'électricité, tout augmente. Nous voulons garder notre fille avec nous, ici, pour lui épargner la vie dure de la campagne. Regardez mes mains pleines d'écorchures. Je suis très sale. Je souffre chaque jour et vis comme un mendiant. Je ne veux pas que ma fille mène la même vie que moi. Je veux qu'elle continue ses études. Si elle travaille bien, sa vie sera meilleure.
La voisine de Wei Chuandong continue à trier un tas de détritus pour récupérer ce qui est encore vendable. Le dos courbé et à main nue par des températures inférieures à 0 degré.
Il n'y a pas d'usine à la campagne. Comment pourrait-on y gagner assez pour vivre? Ici, je revends les déchets, mais nous sommes chassés de partout. La vie est très dure. Quand j'en parle, j'ai envie de pleurer. Je tombe souvent malade. Vous voyez mes vêtements crasseux? Je les ai ramassés. Mais je n'ose pas m'en plaindre. J'ai trop peur qu'on me mette des menottes. Il fait froid, l'eau est coupée. Le pire, c'est que nous sommes expulsés. Cette année, j'ai déjà déménagé 6 fois.
Alors que la nuit tombe et que le bulldozer continue à renverser des pans entiers de béton, nous croisons Monsieur Yu. Le responsable du chantier vient de descendre de son impressionnant 4x4 pour s'assurer que les travaux avancent sans encombre. Qu'est-ce que ce terrain va devenir après la destruction?
On va construire des résidences modernes et dans 3 ans, de nouveaux résidents vont s'installer ici.
Il faut partir. Les pelleteuses s'affairent dans les ruines et s'approchent dangereusement. Le responsable de la sécurité nous regarde d'un mauvais œil.
La démolition, c'est sale. Faites attention à vous. Avant, c'était des bidonvilles par ici. Il y avait énormément de vendeurs ambulants et de petites échoppes. Mais depuis décembre, on rase tout.
Les ex-occupants se retrouvent sans toit en plein hiver, chassés comme des indésirables. Impossible d'échanger davantage avec les derniers habitants, un ouvrier vient vers nous, un bâton en fer à la main.
Hé, arrêtez de prendre des photos. Qu'est-ce que vous faites ici? Partez, dépêchez-vous.
L'opération nettoyage est un succès. Le bureau municipal des statistiques vient d'annoncer que le nombre d'habitants a baissé pour la première fois depuis l'an 2000. Les autorités ne reculent devant aucun obstacle pour tenir leurs promesses. Faire de Pékin une métropole internationale de premier rang, digne d'une superpuissance. Pékin chasse sa population bas de gamme. Un grand reportage de Heike Schmidt et de Hanno Owu. Réalisation Pierre Chaffangeon.